Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu aujourd'hui dans la première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 3 et au verset 1. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1. Pour moi, frères, je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants en Christ. Et notre sujet aujourd'hui sera le suivant. L'édifice spirituel. Paul a fait la distinction entre la sagesse de Dieu dans l'Évangile et la sagesse de l'homme, et à présent, il fait la distinction entre un édifice spirituel et un édifice charnel. L'Église primitive avait parfois des prédicateurs qui n'avaient pas la bonne motivation. Ils étaient sauvés, comme les judaïsants, par exemple. Paul se réfère ici à ces prédicateurs qui étaient à Corinthe, qui étaient sauvés, mais ils s'égaraient sur le chemin dans leur façon de construire l'Église, d'édifier l'Église. Comme de nos jours, ceux qui prêchent pour l'argent, pour être mis en avant ou pour quelque chose d'autre. Mais l'apôtre Paul a à l'esprit ceux qui sont sauvés, comme ce passage nous le montre, et cependant, ils s'égarent loin du chemin. Notre premier point sera « La chair regagne le cœur ». C'est possible que le cœur du croyant né de nouveau soit non seulement infiltré par la chair, mais gouverné, dominé par la chair à nouveau. Pour moi, frère, je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels, c'est-à-dire des hommes qui se confient dans la puissance de l'Esprit, qui se confient dans le Seigneur, mais comme à des hommes charnels, ceux qui sont prêts à se confier dans des choses du monde, en des méthodes du monde, les efforts de l'homme, les capacités et les aptitudes humaines. Je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, parce que la chair a repris le contrôle du cœur à nouveau. Vous étiez rachetés, oui, mais vous étiez comme des petits enfants en Christ. Des petits enfants en Christ, ils sont comme des petits enfants. Ils ont la lumière, ils sont réellement sauvés de manière authentique, mais ils n'ont pas fait beaucoup de progrès. Et ils ne sont pas inconvertis, ce ne sont pas des hérétiques, ces gens à Corinthe, malgré toutes leurs erreurs. Ils sont des petits enfants en Christ. Il y a la sincérité, il y a une nouvelle nature en eux, une nouvelle naissance. Et cependant, leur façon de penser mondaine a dominé leur pensée et leur manière de se conduire. C'est pour cela qu'ils se confiaient dans les prédicateurs qui avaient une grande capacité oratoire pour impressionner les gens comme les philosophes grecs. Quelqu'un comme Apollos, qui peut impressionner notre communauté. L'apôtre Paul dit non, toute confiance doit être dans la puissance de l'Esprit, dans la puissance de l'Évangile, quand le Saint-Esprit œuvre dans les cœurs. Aucune méthode humaine ne peut remplacer ces choses ou prendre la place. L'apôtre Paul parle de cette possibilité du cœur qui peut être dominé à nouveau par la chair. Au verset 2, « Je vous ai donné du lait à boire et non de la viande, car vous n'étiez pas en état de la supporter. Maintenant même, vous ne le pouvez pas. » L'apôtre Paul s'en est tenu aux choses basiques et il était très simple dans la manière d'exprimer les doctrines de la foi. Il leur a enseigné non seulement l'Évangile alors qu'il était avec eux, mais il leur a enseigné les doctrines également. Et il allait les exprimer aussi simplement que possible. Ils ne pouvaient pas aller très loin parce qu'ils étaient encore tellement attachés à leur arrière-plan culturel, à leur grande philosophie grecque, que ceci les a empêchés d'avancer. Et c'est de même aujourd'hui, plus nous sommes mondains, moins nous avons de perception spirituelle. En tant que chrétiens, moins nous pouvons comprendre les choses profondes de Dieu. C'est l'un des principes qui est là dans ce texte. Je vous ai donné du lait à boire et non de la viande, car vous n'étiez pas en état de la supporter. De la supporter, ceci est en italique, ceci a été ajouté pour clarifier ce texte. Vous n'étiez pas en état de la supporter. Vous ne pouvez pas digérer ceci, ceci n'est pas intéressant pour vous, parce que votre esprit est encore préoccupé par des choses mondaines, terrestres. Nous voyons ceci tout autour de nous, dans les milieux évangéliques, même aujourd'hui, partout, il y a tant de confiance dans la chair, dans des méthodes humaines, dans les capacités humaines, ce que l'on peut rajouter à l'évangile. Vous allez dans beaucoup d'églises, dans des cultes, il n'y a pas d'adoration sincère du Seigneur et simple. Tout ceci a été abandonné. On rajoute toutes sortes de choses pour améliorer l'adoration du Seigneur, pour attirer les gens, et des choses mondaines, la musique du monde. Nous nous confions si peu dans l'Évangile, dans la puissance de l'Esprit. Et il y a toutes sortes de choses que nous rajoutons. Verset 3. Car puisqu'il y a parmi vous de l'envie, des dissensions et des partis, parce que vous êtes encore charnels, vous êtes de cette terre, vous marchez comme ceux qui sont mondains, malgré votre nature spirituelle, et vous avez accepté à nouveau les méthodes du monde. Et nous devons considérer ces choses de nos jours. Vous pouvez aller dans de nouvelles églises, dans différents endroits, et en particulier aux États-Unis. Vous entrez, et ce ne sont pas des églises, pas du tout. Ce ne sont pas des endroits où les enfants de Dieu se rassemblent, où il y a la prédication de la parole. Non, ce sont comme des salles de théâtre avec une grande scène, avec des actes pour divertir les gens. C'est ainsi que ces églises sont construites. Ce ne sera pas une église. Et ceci nous concerne également. Il y a quelques années, j'ai entendu quelqu'un qui parlait aux enfants et c'était juste ce qu'il disait. Mais il n'a pas utilisé du tout l'écriture, à part un texte qu'il a lu. Et il a pris 25 minutes pour raconter une histoire. C'était une histoire très intéressante. Tous les adultes, les enfants écoutaient. Et il y avait une application de l'évangile à la fin. Mais ceci n'était pas tiré de l'écriture, de la Bible. Ce n'était pas un message basé sur la parole de Dieu. Pourquoi pas ? Oh, celui qui parlait était une bonne personne dans sa manière de penser et il pensait qu'il pouvait améliorer par rapport à la Bible, qu'il y a quelque chose de plus intéressant que la parole, qu'une histoire passerait mieux et les adultes, les enfants trouvaient ça très bien. Nous devons faire bien attention. Ce que nous entendons, ce n'était pas l'évangile présenté dans les pages de la parole de Dieu, c'était quelque chose d'autre. Même dans des cercles qui sont plutôt bons dans leur doctrine, nous pouvons nous égarer et penser que nous avons besoin de quelque chose de plus, quelque chose qui vient de nous. Et ainsi Dieu ne peut pas faire son œuvre. Et les instruments qu'il nous donne, nous pensons qu'ils ne sont pas suffisamment bons. Et de même pour notre engagement, notre consécration, nous sommes exhortés dans la parole de Dieu à être consacrés au Seigneur, nous avons des priorités, nous voulons le servir, nous voulons témoigner pour lui, nous voulons être disponibles et donner notre vie au Seigneur. Je me rappelle, il y a quelques années, j'étais en Malaisie et on m'a montré un cimetière européen. Et on m'a dit, comment vous pouvez reconnaître les tombes des missionnaires européens ? Celui-ci et celui-là, ils étaient missionnaires européens. Et j'ai remarqué que c'était là des jeunes hommes, des jeunes femmes qui sont morts à 22 ans, 23 ans, 24 ans. Il y avait un grand nombre qui mouraient très jeunes. Oui, parce que quand les missionnaires européens sont allés en Asie ou ailleurs, ils s'attendaient à ne pas survivre plus de 2 ou 3 ans à cause des maladies dont ils n'avaient pas l'habitude. Et certains sont allés et en 6 mois, ils sont décédés. Beaucoup sont morts après 2-3 ans, peut-être 50% d'entre eux. Seulement quelques-uns sont restés plus longtemps, comme William Nib en Jamaïque, par exemple, qui était maltraité et qui est revenu en Angleterre, qui a parlé à des foules, qui était l'un des instruments utilisés par le Seigneur pour l'abolition de l'esclavage, pour changer la manière de penser des Anglais, pour qu'ils puissent réaliser l'horreur de l'esclavage. Ils mouraient pour la plupart jeunes. De nos jours, tout est différent. Est-ce que vous allez faire ceci pour le Seigneur ? Aussi, ceci est en accord avec mon agenda ? Oui, peut-être. Sinon, non. Combien les choses sont différentes. L'esprit charnel entre en nous les choses de ce monde, qui sont beaucoup plus importantes pour nous que les choses de Dieu. C'est là ce dont parle l'apôtre Paul. Parce que vous êtes encore charnels. vous n'êtes pas poussés par des choses spirituelles. » Et il donne des exemples. « Car puisqu'il y a parmi vous de l'envie, des dissensions et des parties. » Qu'est-ce que c'était que ces envies, ces dissensions, ces parties? Il va nous le dire au verset 4. « L'un dit, pour moi, je suis de Paul. L'autre, moi, je suis d'Apollos. » Il nous a déjà dit ceci au début de l'épître. Les gens de Corinthe ne se haïssaient pas l'un l'autre, ou ils ne se querellaient pas par rapport à des petites choses, mais ils formaient des clans, des groupes, parce qu'ils avaient leur prédicateur favori, leur personne favorite. Certains disaient Paul, d'autres Apollos, parce qu'ils parlaient bien, et ils pouvaient impressionner leur communauté grecque. Ceci ne concerne pas l'efficacité du prédicateur, si le prédicateur est apte à enseigner. Non, ceci c'est une caractéristique humaine qu'ils mettent en avant. Et ils se disent, ceci va fonctionner, ceci va impressionner les gens, cette personne, et cette personne qui va gagner les âmes et qui va faire grandir l'Église. C'était une considération humaine. L'un choisissait Paul, l'autre Apollos, l'autre l'apôtre Pierre, etc. Nous en revenons au verset 3. Puisqu'il y a parmi vous de l'envie, ce terme « envie » est une traduction du terme grec « zèle ». Mais fréquemment, ce terme s'applique à quelque chose de négatif, l'envie ou des jalousies. Un zèle pour être meilleur que quelqu'un d'autre, un zèle pour être supérieur à quelqu'un d'autre. Et je peux illustrer ceci simplement. Imaginez qu'il y a deux églises dans une ville et ces deux églises prêchent l'Évangile et cet esprit charnel entre. Imaginez que l'une des deux églises est poussée à vouloir être plus grande que l'autre, comme une équipe de football. Cette église veut être la meilleure et celle qui gagne, la meilleure si vous voulez, dans cette ville. C'est un esprit charnel. Et de vouloir tout faire pour être la plus grande église et la meilleure équipe, la meilleure église. Si ceci se passait, alors ce serait un exemple de ceci, l'envie. Parce que vous êtes encore charnel. Car puisqu'il y a parmi vous de l'envie, avoir cette envie d'être meilleur que quelqu'un d'autre, ce grand zèle, avec cette mauvaise motivation, notre motivation devrait être d'être une église pure et belle pour le Seigneur qui le représente, qui proclame l'Évangile, qui peut être utilisé par le Seigneur pour gagner les âmes. Et notre pensée, nos efforts sont pour gagner les âmes. Et nous utilisons les occasions que le Seigneur nous donne dans notre ville, non pas pour être plus grand qu'une autre église. Vous voyez la différence, c'est là ce que l'apôtre Paul veut dire ici par ce terme traduit par « envie ». Parce que vous êtes encore charnel, car puisqu'il y a parmi vous de l'envie, qui est poussée par ce désir d'être remarqué, d'être quelqu'un d'important dans ce monde. Si nous avons la musique contemporaine du monde, peut-être que les foules viendront dans l'église. Et des dissensions, des disputes et des parties, des divisions. N'êtes-vous pas charnel? Et ne vous conduisez-vous pas selon l'homme? C'était là un problème qui est entré dans Corinthe, dans l'église de Corinthe. Au verset 4, « Car lorsque l'un dit, pour moi je suis de Paul, et l'autre, moi je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas charnel ?» Et l'apôtre Paul change petit à petit de sujet pour parler de prédicateur et de lui-même en tant qu'apôtre. Qui est donc Paul? Et qu'est Apollos? Sinon des ministres par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Le chrétien spirituel, le chrétien qui est mûr, donne gloire à Dieu. Et voit la main du Seigneur, en toute chose, son évangile, son œuvre, sa puissance. L'apôtre Paul l'explique. C'est si important, j'ai planté. Il était le premier prédicateur qui a prêché l'évangile, Apollos a arrosé. Il a continué l'œuvre, il a prêché l'Évangile, mais Dieu a donné l'accroissement. Ceci est intéressant. Au verset 5, il y a l'illustration de serviteur. Au verset 6, il y a l'illustration de fermier, d'agriculteur. Au verset 5, Paul, un apôtre. Le terme ministre, c'est serviteur. Vous pouvez imaginer une grande demeure avec beaucoup de terrain. Il y a quelqu'un qui gère, qui donne le salaire à tous ses ouvriers dans ce domaine. On en arrive à la dernière journée de la semaine, en tout cas c'est ce qu'il faisait à l'époque. Tous les serviteurs de la maison, tous les ouvriers de ce domaine agricole venaient et ils recevaient de la part du gérant. Ils recevaient leur salaire. Mais à qui appartient l'argent ? L'argent appartient au propriétaire, au maître, non pas au gérant. Qui décide du salaire ? Oh, c'était le propriétaire. Qu'est-ce que le gérant faisait ? Il distribuait simplement. C'est là ce que l'apôtre Paul dit au verset 5. Qui est donc Paul ? Et qui est Apollos ? Ce ne sont que des serviteurs. Par qui vous avez cru ? Selon que le Seigneur l'a donné à chacun, le salut était le don de Dieu en Christ. Ceci n'appartenait pas à Paul ou à Apollos. Ce n'est pas une capacité humaine. Ceci vient du Seigneur. Et ensuite, l'illustration change en une illustration agricole. Au verset 6, l'apôtre Paul fait ceci. Il change de métaphore rapidement. J'ai planté au verset 6, Apollos a arrosé, mais Dieu a donné l'accroissement au verset 7. C'est pourquoi ni celui qui plante, ni celui qui arrose n'est quelque chose. Il est un ouvrier humble. Quand le blé pousse, il ne se dit pas « Oh, voyez le beau blé !» Ceci, c'est grâce à moi, parce que moi je l'ai planté. Et il a l'air si beau. C'est pourquoi ni celui qui plante, ni celui qui arrose n'est quelque chose. Ce sont des tâches humbles. Bien sûr, ils doivent le faire d'une manière efficace. Et le prédicateur doit être efficace, doit être fidèle. Mais ne leur donnez pas d'autorité. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui donne l'accroissement. L'apôtre Paul se répète avec différentes illustrations et ensuite résume tout ceci une troisième fois, parce que c'est si important. Ce sont là des leçons que nous, en tant qu'Église, aujourd'hui, nous ne voulons pas apprendre et nous ne les mettons pas en pratique. Il y a tant de mise en avant de prédicateurs de nos jours. Au verset 8, « Or celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. » Nous pourrions passer du temps avec ce verset. Construire une église, c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est un autre point. Et nous en arrivons à ceci. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa récompense, selon son propre travail. Et au verset 9, « Car nous sommes ouvriers, avec Dieu. » Quel privilège! Pourquoi est-ce que Dieu ne fait pas tout le travail lui-même? Pourquoi est-ce que l'Esprit n'œuvre pas simplement dans les cœurs et les gens reçoivent la lumière et les gens sont sauvés? Dieu choisit d'utiliser ses enfants dans son œuvre, mais ceci ne devrait pas leur monter à la tête. La puissance revient à Dieu. L'œuvre dans le cœur, c'est par l'Esprit de Dieu. Et nous ne sommes que des ouvriers avec le Dieu Tout-Puissant. C'est tout ce que nous sommes, des ouvriers. Nous faisons l'œuvre qu'il nous a donné de faire, de la manière par laquelle il nous a demandé de le faire. C'est lui qui est important. Au verset 9, et comprenez le sens de ce verset. On peut insérer un terme pour comprendre ce verset un peu mieux, car nous ne sommes que des ouvriers avec Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Nous ne sommes pas au même niveau que lui, mais nous sommes des ouvriers avec lui. Nous ne sommes pas au même niveau, nous ne sommes que des ouvriers. Mais nous avons le privilège d'œuvrer pour le Dieu Tout-Puissant. C'est là le sens de ce verset. Vous êtes le champ de Dieu, ou le domaine agricole de Dieu, le champ de Dieu. Et ensuite, l'image change à nouveau dans le même verset. Vous êtes l'édifice de Dieu. Quel changement rapide de métaphore. Paul parle d'un domaine agricole, puis il parle d'un édifice. Et ceci introduit un nouveau sujet au verset 10. À présent, pensez à un édifice. Au verset 10, à Corinthe, il y a une église, mais c'est un édifice. Verset 10, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde comment il bâtit dessus. Prenez garde comment vous bâtissez. Un sage architecte, au verset 10, pour faire les plans du bâtiment. En grec, architecte ne signifie pas réellement quelqu'un qui fait les plans, mais c'est celui qui construit, c'est le constructeur du bâtiment. Un sage architecte, quelqu'un qui construit le bâtiment. C'est là ce que l'apôtre Paul veut dire. Nous n'avons pas besoin d'architecte littéralement, même si c'est le terme grec, parce qu'un architecte de nos jours ne met pas de briques en place, il ne va pas sur le terrain, il n'est pas celui qui construit le bâtiment, mais il en dessine les plans. Et dans ce cas-là, celui qui dessine les plans, c'est Dieu. Ainsi, c'est plutôt un sage constructeur. C'est exactement ce que l'apôtre Paul veut dire ici. Paul est celui qui a construit, et il a suivi les plans qui lui ont été donnés par Dieu. Il n'a jamais fait ses plans lui-même, mais il a construit l'église de Corinthe comme un constructeur plein de sagesse. En d'autres termes, il a suivi les plans méticuleusement, et ce fondement a été mis en place, le fondement comme les fondations du temple, de grandes pierres avec des dimensions parfaites. J'ai posé le fondement. Le fondement, c'est Christ, au verset 11, et l'évangile de Christ, c'est là le fondement. Mais pour revenir au verset 10, et un autre bâtit dessus. Ainsi, Christ nous a donné le fondement pour son Église. C'est lui, Christ lui-même, son incarnation, sa souffrance, sa mort pour les pécheurs, sa mort expiatoire, sa résurrection, son ascension, c'est le message de l'Évangile, la repentance, la foi en Christ, et une vie nouvelle qui nous est donnée, et un nouvel esprit qui est mis en nous. C'est l'Évangile de Christ, c'est le fondement. Certaines personnes bâtissent sur ce fondement, mais ils ne font pas bien attention comment ils construisent. Et au lieu de construire avec des pierres précieuses, ceci se réfère ici à du marbre, par exemple. Différentes sortes de marbre, de granit, des pierres de valeur qui sont solides pour bâtir sur le fondement. C'est là ce que veulent dire ces pierres précieuses dans ce passage, verset 12, que si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, des choses qui ont de la valeur, des gens convertis qui prêchent l'Évangile, c'est ainsi qu'ils construisent sur ce fondement. Ils appellent les gens à la conviction du péché, à la repentance sincère et authentique, et ils voient la preuve d'une vie transformée avant de recevoir ces gens comme membres de l'Église. C'est la construire avec des matériaux qui ont de la valeur, des pierres précieuses. Mais certaines personnes construisent sur le fondement de l'Évangile de faux croyants ou des croyants de nom uniquement, des gens inconvertis qui sont simplement d'accord avec le message de l'Évangile. Et ceci est représenté par le bois, le foin, le chaume. Ainsi, un grand fondement a été posé d'une manière parfaite. Et quelqu'un vient et construit une baraque dessus avec du bois, des matériaux combustibles et qui ne sont pas très solides. Et ceci ne durera pas. Qu'est-ce que cela signifie? Prenez par exemple l'Église catholique. Elle a commencé avec le bon fondement, l'Évangile. Et elle a encore quelques éléments de l'Évangile, même si ces choses sont complètement gâchées par tout le reste. L'Église catholique croit en Christ, que le Fils de Dieu est venu sur cette terre, qu'il a souffert, qu'il est mort sur une croix, que la croix est la base même du salut. Il croit en ceci, il croit dans la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils ont le fondement qui est présent, mais qu'est-ce qu'ils ont construit sur ce fondement? Est-ce qu'ils ont construit une structure qui appelle les gens à la repentance, à la conviction du péché, à rechercher Christ, à la conversion, à croire dans sa mort expiatoire, en étant le seul moyen pour être sauvé, en lui donnant sa vie, en marchant avec Christ? Non, ils ont construit sur ce fondement quelque chose de différent, en disant que pour avoir ce salut, vous avez besoin du prêtre, des sacrements, vous devez faire tous vos efforts et donner de l'argent à l'Église et adorer le Seigneur selon les sacrements, etc. Et l'Église va vous donner la grâce, le salut. Ce n'est pas quelque chose que Dieu vous donne directement. Ce n'est pas une vie nouvelle par la mort de Christ. Non, l'Église catholique, par son conseil, a obscurci le fondement du salut. Et il y a des gens ainsi qui construisent sur un bon fondement des choses qui sont fausses et qui cachent ce fondement. Ainsi, les gens ne peuvent pas être sauvés et comprendre la vérité. Il y a également les libéraux théologiques, comme l'archevêque de Canterbury de nos jours et beaucoup des évêques et des prêtres de l'Église anglicane qui remettent même en question le fondement en disant « Christ qui est venu, qui souffre, qui meurt, une mort expiatoire », ils disent « Non, ceci n'est pas acceptable ». Ils ont même enlevé le fondement et ils rejettent ce fondement, ils l'ont mis de côté. Mais il y a certains qui sont convertis, qui ont ce fondement, le bon fondement, qui disent qu'ils croient dans ce fondement, mais ils n'appellent pas les gens à la repentance, parce qu'ils ont peur que ceci fasse peur aux gens. Comme ce pasteur bien connu, Rick Warren, aux États-Unis, il a une grande église, une église énorme, il a écrit un livre qui est un best-seller, mais ses idées sont très différentes. Nous croyons dans le fondement de Jésus-Christ, mais si vous venez dans mon église, nous allons vous attirer avec de la musique rock, toutes sortes d'activités. Regardez, nous sommes heureux, nous sommes un grand club, et si vous voulez venir dans notre club, alors venez. Est-ce que vous avez demandé si ces gens ont une profession de foi? Non, non, venez dans l'église, vous pouvez être membre, vous pouvez venir sans preuve d'être sauvé. C'est si facile. Ainsi, il construit sur le fondement quelque chose qui n'a rien à voir avec l'œuvre de l'Évangile. Vous dites que vous croyez dans l'Évangile, dans la mort de Christ, dans le ciel, dans l'enfer, dans la Trinité, mais c'est comme si vous faisiez tourner un club de gens pour une activité sociale, un club de gens pour être heureux ensemble. Et c'est le cas de beaucoup, beaucoup d'églises. Et ces gens qui vont dans ces églises, certains ne peuvent pas réellement être sauvés parce qu'il n'y a pas de signe de la repentance, de la conviction du péché, de changement de leur vie. Ils ne sont pas séparés du monde, ils ne grandissent pas dans la sainteté. C'est là ce que l'apôtre Paul veut dire et il nous avertit. J'ai posé le fondement et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde comment il bâtit dessus, car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui a été posé, lequel est Jésus-Christ. Au verset 12, que si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, ou du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Et si ce n'est pas plus tôt, en tout cas au jour dernier, car le jour la fera connaître, parce qu'elle sera révélée par le feu. Ceci ne parle pas du feu du jugement. Ceci parle de la grande lumière, de la vérité qui sonde toute chose, qui illumine quand Christ est révélé à sa venue. Et devant cette grande lumière, tous ceux qui sont malhonnêtes, tous ceux qui ne sont pas sincères, seront révélés. Et ce feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Est-ce qu'une église contient des gens réellement sauvés? De l'or, de l'argent, des pierres précieuses, qui représentent ces personnes. La vie spirituelle ne s'éteindra pas, parce qu'ils marchent réellement avec le Seigneur, et leurs âmes ne peuvent pas être perdues, et ils aiment le Seigneur, ils le connaissent. L'or, l'argent, les pierres précieuses, il y a une beauté dans cette église. Il y a une beauté dans les mariages, dans cette église. L'époux, l'épouse prennent soin l'un de l'autre, s'aiment l'un l'autre. Il n'y a pas de domination, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de mauvaises paroles. Il y a la beauté dans cette église. Et les gens sont caractérisés par leur amour, par leur sainteté, et ils aspirent à dominer sur leurs péchés. Ou est-ce que c'est tout faux, avec du bois, du foin, du chaume, et nous allons à l'église. À cause de la musique rock, ils ne veulent pas les beaux cantiques, les vieux cantiques, et une prédication sincère de la parole. Au verset 14, si l'œuvre de quelqu'un que quelqu'un a bâti subsiste, ceci est un avertissement pour tous les prédicateurs et pour chacun d'entre nous. Il en recevra la récompense. Qu'est-ce que c'est que ceci? Bien, bon et fidèle serviteur. Et la joie de voir toutes les personnes de son église, beaucoup qui sont venues au Seigneur parce qu'il a prié pour eux, et ils sont là dans la gloire céleste, c'est une récompense. Au verset 15, et ceci parle d'une personne qui est réellement sauvée mais qui a été insensée en tant que prédicateur. Et il s'est égaré, et il a laissé entrer la musique du monde et le monde et tout ce qui va avec. Il est sauvé, mais il a dilué l'évangile. Et il a accepté ces grandes églises, il a dilué le message et il a rendu ces choses si faciles. Les gens ne sont pas sauvés, l'église est pleine de gens qui sont des chrétiens de nom. Si l'œuvre de quelqu'un brûle, c'est quelqu'un qui est réellement sauvé, mais dans l'erreur, il en fera la perte. Ce sera quelque chose de terrible au jour dernier, de réaliser que l'Église était complètement dans l'erreur et pas sincère, que les gens n'étaient pas sauvés. Pour lui, il sera sauvé, lui seul, mais comme au travers du feu. Cette lumière resplendissante de la présence de Dieu, de la présence de Christ, cette lumière resplendissante va purifier, et avant d'entrer dans la gloire où il n'y a pas de tristesse, pas de souffrance, il va se repentir de tout ce qu'il a fait, de tout ce qui était dans l'erreur, et il sera purifié et sauvé pour toute l'éternité, parce qu'il était un croyant, mais son œuvre ne peut pas l'accompagner. C'est là la signification de ce passage. Que chacun prenne garde comment il bâtit dessus. Et nous voulons mettre en pratique ces paroles pour nous également. Tenez-vous tout près de la parole de Dieu, les choses profondes de Dieu, les choses authentiques, les choses simples, les méthodes de Dieu, que l'Évangile, que la puissance de l'Esprit fasse son œuvre. Ne faites jamais de compromis. N'acceptez jamais l'Esprit du monde.